Cet extrait de l'Évangile selon saint Marc indique un tournant dans l'Évangile. Nous en sommes rendus à peu près à la moitié de l'Évangile, l'Évangile selon saint Marc au 16e chapitre, et nous y voilà arrivés au 8e chapitre. Jusqu'à maintenant, c'est arrivé à quelques occasions que plusieurs individus qui avaient profité du ministère de Jésus avait été en mesure de reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, y compris dans certains cas des démons. Et à chaque occasion, Jésus avait demandé que cela ne soit révélé à personne, que ce soit gardé secret. C'est un des éléments là, essentiels, fondamentaux là, de l'Évangile selon saint Marc. Or ici, on voit que Jésus prend les devants, et donc c'est lui-même qui demande à ses disciples qui l'accompagnent, « Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? » Et il prend le temps de les écouter, et les gens répètent un peu ce qu'on entendait au sujet de Jésus. Et là, Jésus pose une question très personnelle à ses disciples, et il leur dit, « Oui, d'accord, tout ça, mais maintenant, pour vous, qui suis-je? » Et c'est le premier des apôtres, le premier entre les 12, Saint-Pierre, qui répond au nom de tous les autres. On peut penser qu'il répond promptement. Ce n'est pas écrit, mais on peut penser que c'est lui qui, sans tarder, n'hésite pas à prendre la parole au nom des autres. Et il prononce cette parole, « Tu es le Christ ». Alors nous qui sommes des lecteurs, croyants, et nous entendons cette parole de Pierre, instantanément, nous jubilons de joie, nous crions et nous applaudissons devant cette profession de foi. Or, Jésus, encore une fois, réagit de la même manière qu'il le fait depuis le début de son évangile et leur défendit vivement de parler de lui à personne. Mais que se passe-t-il donc? Il semble, encore une fois, qu'il y a deux niveaux ici à la conversation entre Jésus et ses disciples, et on est sur le point d'en rentrer au cœur de toute l'affaire, de ce qui est vraiment en jeu ici. Parce que oui, Pierre est en mesure de dire que Jésus est le Christ, mais que comprend-il au sujet de ce qu'il vient dire? Oui, tu es le Christ. Le comprend-il vraiment? Jésus a quelque chose à dire, lui, par rapport au fait qu'il est le Christ. Et il enchaîne tout de suite. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, le Christ, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, que 3 jours après, il ressuscite. Et là, Jésus l'évangile selon saint Marc, dit ça ouvertement. On dit qu'une autre traduction qui est possible de faire, c'est « Il tint ce langage avec assurance ». Les deux sont complémentaires. Jésus sait ce qu'il dit et Jésus parle ouvertement. Là, on reprend la position de Pierre. Rappelons-nous, on a applaudi Pierre. Il a dit que Jésus était le Christ. Qu'est-ce que fait Pierre? Pierre prend Jésus à part. Viens-y, j'ai quelque chose à dire. Jésus... Ça, là, ça n'arrivera pas. C'est clair, là? Il n'est pas vrai que tu vas mourir. On ne laissera pas ça arriver. Et là, quelle est la réaction de Jésus devant Pierre, qui voulait simplement renchérir à ce que lui avait compris que Jésus était le Christ? « Passe derrière moi, Satan! » Encore une fois, il parle ouvertement, il parle avec assurance, Jésus. Il dit, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On peut penser que ce récit est ce qu'il y a de plus historique qui soit. Rappelons-nous, l'Évangile, selon saint Marc, l'auteur de l'Évangile, est l'ami de Pierre. Il est son disciple. Dans la première lettre de Pierre, il l'appelle son fils bien-aimé. Alors là on a la parole de quelqu'un qui était là en première ligne. On peut s'imaginer qu'un soir, là, Pierre et l'évangéliste Marc étaient anciens ensemble, puis qui dit, « Mon petit gars, j'ai des histoires à te raconter. Voici ce qui est arrivé à un moment donné. J'étais avec Jésus. J'avais absolument rien compris. » Quel beau geste d'humilité. Qui est Jésus pour nous? C'est un moment tournant dans l'Évangile, mais ça peut être un moment tournant aussi pour nous. L'Évangile des pauvres, l'Évangile du pauvre par excellence, Jésus le Messie qui meurt par amour pour nous. Nous continuons la lecture en première lecture de la lettre de Saint Jacques. Et dans cette lecture, on nous présente le profil socio-économique de la communauté à laquelle s'adresse Saint Jacques quand il écrit cette lettre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous lisez des commentaires au sujet de cette lettre. Ça apparaît de manière très, très claire dans tout le chapitre 2 de cette lettre. On peut vraiment le discerner. Qui étaient les gens à qui s'adressait Jacques? D'abord, on dit que les gens se rassemblent dans les assemblées. L'assemblée dont on parle ici, c'était l'assemblée synagogue. C'est le mot qui est utilisé en grec. Donc, on peut déjà discerner que les premiers chrétiens, à l'époque où Jacques écrit, étaient un groupe qui s'insérait à l'intérieur de la communauté juive, qui se rassemblait à la synagogue et qui écoutait la parole de Dieu, mais qui, eux, l'interprétaient de la même manière que Jésus va le faire à la synagogue. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Eux, ils l'interprétaient par rapport à Jésus. Donc, c'était comme un groupe à l'intérieur du groupe. Et à l'intérieur de ce groupe-là, il y avait des tensions très, très fortes. Il y avait, évidemment, les judaïsants rigides, et il y avait aussi les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme ou qui avaient de la sympathie là, pour le christianisme. Il y avait aussi à l'intérieur de cette communauté-là, et c'est très clair, probablement des gens qui étaient bien nantis financièrement. Et il y avait dans les environs de la communauté chrétienne aussi des hommes d'affaires. On est dans l'Empire romain, et dans l'Empire romain, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens riches, des gens en moyens. Et c'était très tentant pour les premiers chrétiens de se laisser là, séduire par le pouvoir de l'argent et de l'influence. Si on pouvait se faire des amis à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur et peut-être monter notre statut social. Et là, on peut voir que dans cette lettre de Saint-Jacques, le profil général de l'ensemble de ceux qui appartenaient à la communauté chrétienne était probablement de conditions relativement modestes. Et alors, Saint-Jacques est en train de rappeler à ces gens-là, rappelez-vous que le Seigneur n'a pas choisi les riches, il a choisi les pauvres. Il a une préférence pour les pauvres. Une allusion directe est faite à la béatitude des pauvres. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume? Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et, ajoute tout de suite, donc oui, faire des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé, auront aimé Jésus. Notre passage de l'Évangile. « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et une référence directe au livre du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », auquel évidemment on ajoute le grand commandement, « Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même ». Voilà à quoi on peut tout résumer, toute la loi. Bien, frères et sœurs, on a ici une invitation pour chacun et chacune d'entre nous, quand on veut parler de l'Évangile, de nous rappeler que c'est l'Évangile des pauvres. Pauvres, petits, faibles, laissés pour compte. Et on le prie tellement bien dans la prière du psaume que nous avons ensemble prié, entendu après la lecture de la première lecture, quand dans le refrain nous avons dit « Un pauvre cri ». Le Seigneur entend. Soyons pauvres pour qu'il nous entende. Oui, pauvres, soyons dans la joie, car de toutes nos frayeurs, il nous délivre. Oui, un pauvre cri, le Seigneur entend. Il nous sauve de toutes nos angoisses. Amen.